Amis, frères et sœurs, la grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, son Fils, notre frère et notre Sauveur. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte dans cette maison de prière. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous. Ensemble, prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Tu nous invites à faire maintenant une pause sous ton regard, au milieu de l'agitation de nos vies. Tu nous proposes de vivre ici et maintenant un temps d'écoute et de partage, un temps de prière et de louange, un temps où nous pouvons nous ressourcer à ta grâce et à ton amour. Tu nous invites simplement à vivre un temps où, par ton esprit, nous apprenons à nous trouver, à nous retrouver en communion avec Jésus le Christ. Louange à toi, ô Dieu d'amour. Réunissons-nous dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret liturgique inséré au début du psautier français. Je vous invite à vous lever. Éternel, nous te louons parce que tu nous rassembles avec nos différences. Nous te louons parce que tu te donnes à chacun et chacune de nous. Oui, tu te donnes à nous, Éternel, non pas comme une chose ou un objet, non, mais tu te donnes à nous sans compter, sans calculer, sans mesurer ton temps ni ta peine. Tu crées en nous un cœur nouveau. Par ta loi, tu donnes à chaque homme un espoir nouveau. Tes commandements nous tracent le chemin le plus droit, le chemin de la vie. Tes jugements sont vrais. L'homme humble en reçoit la paix. Éternel, nous te louons, nous te bénissons. Amen. Et je vous invite à poursuivre notre louange. En prenant maintenant dans le recueil le psautier français, le chant du psaume 19. De ce psaume 19, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4.
Le ciel est...
place. Écoutons maintenant la volonté de Dieu à notre égard pour aujourd'hui et pour les jours qui viennent. Vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous prenons le répond : parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Prions ensemble. Dieu notre Père, nous voici devant toi, avec notre vie partagée, avec notre soif de te suivre et nos résistances à ton appel, avec notre désir d'aimer notre prochain et nos égoïsmes, avec notre quête de lumière et nos obscurités, avec notre foi et avec nos peurs. Oui, nous voici devant toi tels que nous sommes, et voilà que tu nous appelles à convertir notre regard, à changer d'orientation, à ne plus regarder notre vie selon nos critères et nos points de vue, mais selon les tiens. Et tu nous appelles à déposer à tes pieds nos craintes, nos lâchetés. Tu nous appelles à nous dépouiller de toutes nos illusions. Et tu nous invites à laisser ta lumière se déposer sur nos ténèbres. Mais nous voici, tels que nous sommes, avec nos doutes et nos contradictions, mais nous voulons te suivre tout de même. Accepte notre repentance et enracine-nous dans la confiance. Amen. Accueillir le pardon de Dieu dans nos vies, je vous invite à vous lever. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira point et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Que Dieu mette en nos cœurs l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Restons debout pour confesser notre foi et aujourd'hui j'ai choisi un texte issu de la déclaration du synode confessant de Barmen en date du 31 mai 1934 qui réunissait des théologiens comme Karl Barth ou Dietrich Bonhoeffer qui voulaient lutter contre le régime nazi en train de se mettre en place. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les hommes, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les hommes. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les hommes et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'homme. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est esprit de liberté, esprit de tolérance, esprit de justice, esprit de paix. Il accueille au lieu d'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons que son espérance est plus forte que tous les désespoirs. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Prenez place. Nous lirons maintenant un passage de la Bible qui se situe dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 14, les versets 22 à 33. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Ce passage se situe juste après la multiplication des pains. Après avoir envoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. La barque se trouvait déjà à plusieurs centaines de mètres de la terre. Elle était battue par les vagues, le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés. « C'est un fantôme » disaient-ils, et de peur, ils poussèrent des cris. Mais aussitôt, Jésus leur parla. « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » S'adressant à lui, Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »« Viens, » dit-il. Et Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. Mais devant la violence du vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria « « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es fils de Dieu. » Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous, éclaire-nous, sanctifie-nous par la vérité. Amen. Dans le recueil Louanges et prières, nous prendrons maintenant le cantique numéro 190. Et de ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous lever.
Des anges nous louent.
Prenez place. Amis, frères et sœurs, il y a des récits tout à fait curieux dans la Bible, et celui d'aujourd'hui en fait partie. Ce texte que nous venons d'entendre est curieux en ce sens qu'il raconte quelque chose d'invraisemblable, voire peut-être incroyable. Ce récit de Jésus marchant sur l'eau ne passe pas inaperçu, il marque les esprits. Il faut dire que Matthieu, l'évangéliste qui écrit cette histoire, sait choisir les mots et les images pour captiver notre attention par un récit haut en couleurs, riche en détails, que nous ne trouvons pas dans les deux autres récits similaires qui racontent pourtant la même histoire, mais différemment. Chez Marc et chez Jean, tout y est à peu près, sauf l'intervention de Pierre. Pierre n'est présent que dans le récit de Matthieu. Et cette histoire est absente de l'évangile de Luc. Ce récit se situe juste après celui de la multiplication des pains. La foule nourrie et rassasiée est invitée à retourner chez elle et Jésus prend le temps de se retirer à l'écart pour prier. Il oblige les disciples, nous dit le texte, autrement dit, il ne leur laisse pas le choix, à s'embarquer sur le lac afin d'aller sur la rive d'en face, avant lui. Et le vent se lève sur ce lac ordinairement si calme, mais qui peut avoir des coups de tempête assez courts, mais très violents. Les disciples luttent contre les vents contraires, et Jésus les rejoint en marchant sur l'eau. Ils ont peur, ils le prennent pour un fantôme, ils crient et Jésus les rassure en leur disant « Confiance, n'ayez pas peur, c'est moi ». Seul Pierre veut vérifier ce que dit Jésus en lui demandant de lui ordonner de faire la même chose que lui. Et Jésus lui répond tout simplement « Viens ». Et contre toute attente, Pierre quitte la barque, il marche à son tour sur l'eau en direction de Jésus. Mais au bout de quelques instants, il prend peur et se met à s'enfoncer dans l'eau. Il a encore la force de crier « Seigneur, sauve-moi !» Jésus lui tend la main et le saisit. Mais il lui dit aussi « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et c'est ensemble dans la barque que le vent tombe et dans ce calme, les disciples confessent leur foi. De ce récit extraordinaire, nous pouvons recevoir quelque chose pour l'ordinaire de nos vies. Les récits que nous trouvons dans la Bible et dans les évangiles en particulier sont des récits qui contiennent des paroles de vie. Lorsqu'on travaille ce texte, la question qui revient fréquemment, c'est « Jésus a-t-il vraiment marché sur l'eau ?» Cette question est toujours d'actualité et elle le sera toujours, puisque au travers des Écritures, nous cherchons Dieu. Et ce sont nos réponses par rapport à notre compréhension de l'Écriture qui diront en quel Dieu nous croyons. Lorsqu'on lit ces textes de façon littérale, c'est-à-dire en restant au plus près de ce qui est écrit, nous recevons quelque chose de très fort qui peut orienter notre foi. Mais croire n'empêche pas de réfléchir. Si nous consentons à nous décaler, à nous déplacer, si nous acceptons de quitter en quelque sorte le seuil du premier degré de ce récit, alors nous pouvons recevoir une quantité insoupçonnée d'informations et de messages à la fois vitaux et nourrissants. Au fond, lire la Bible, c'est un peu comme si nous étions dans une chasse au trésor. Nous recevons des messages qu'il nous faut sans cesse décoder en y cherchant le sens caché. Et lorsque nous étudions un texte, nous entrons dans une écriture, l'écriture d'un témoin. Non seulement son écriture, mais aussi sa pensée, sa tournure d'esprit, sans oublier sa culture, son contexte. Et ici, notre témoin, c'est l'évangéliste Matthieu. Les récits bibliques sont écrits avec la grille de lecture qui est la foi de ceux qui les ont rédigés. La Bible raconte l'histoire des hommes en quête de Dieu. Et cette Bible est une bibliothèque, disons-nous, autrement dit, plusieurs livres écrits de façon orientée avec le présupposé de la foi des auteurs bibliques. Il s'agit de leur témoignage de foi. Ils racontent ce qu'ils ont compris de Dieu à travers leur propre histoire personnelle, mais aussi collective, au sein d'un peuple. Rien n'a été écrit en direct, tout étant différé. Il y a d'abord une tradition orale qui est mise par écrit très tardivement par rapport aux événements qu'il relate. C'est le même procédé pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament et aussi pour les Évangiles. Alors on peut mieux comprendre qu'il y ait des récits presque identiques dans certains Évangiles, mais avec des détails autres, avec des précisions différentes, comme il peut y avoir aussi certaines omissions. Tout simplement parce que les expériences de foi des rédacteurs des évangiles sont totalement différentes les unes des autres. Chacun a eu une rencontre singulière avec Jésus de Nazareth, devenu à un moment de leur vie le Christ de leur foi. Et ce ne fut pas immédiatement. Il a fallu de nombreuses années de maturation après leur rencontre initiale. Bien des années après l'événement de la résurrection de Jésus, bien après que les disciples aient reçu la force de l'Esprit pour pouvoir devenir des témoins à part entière, il a fallu tout ce recul et ce discernement nécessaire pour pouvoir mettre par écrit ce qui leur a semblé le plus important et qui pourrait rejoindre, sinon tous, en tout cas, le maximum de personnes, en particulier celles et ceux qui ne connaîtraient jamais le Jésus historique. Alors comment faire pour que son message se transmette de génération en génération? Quel récit garder parmi tout ce qui a été vécu pour que ce soit un témoignage qui parle au cœur des hommes, génération après génération? C'est ce qui fait, me semble-t-il, la force d'un livre comme la Bible, mais aussi sa richesse, sa profondeur et sa vitalité. Alors bien sûr, il est tout à fait possible de rester à la surface des textes bibliques. On peut tout à fait les parcourir comme de simples bagages intellectuels. La Bible ne fait-elle pas partie du patrimoine de l'humanité? C'est bien d'en connaître quelques essentiels. Bien sûr, on peut rester en quelque sorte coincé sur les invraisemblances qu'on y trouve et refuser d'aller plus loin. Oui, tout cela, bien sûr, on peut le faire. Toute personne ayant un esprit rationnel ou scientifique, toute personne douée un tant soit peu de raison, dira que ce n'est pas possible de marcher sur l'eau. Et pourtant, c'est bien de cela qu'il est question. Alors, nous sommes invités à aller plus loin que le sens littéral du texte. Et en plus, on ne peut pas le faire tout seul parce qu'il nous faut l'aide des autres qui ont travaillé le texte avant nous, autrement. Nous allons avoir besoin de celles et ceux qui auront ce charisme d'entrer dans le texte par d'autres portes, qui vont nous apprendre que beaucoup d'images présentes dans les récits sont des symboles, peut-être, pour mieux comprendre une culture différente de la nôtre. Et au fond, de quelle eau s'agit-il finalement? Et si l'on nous enseigne que pour les auteurs bibliques, la mer regroupe l'ensemble des mers et des océans, qui cachent en eux-mêmes une faune inquiétante et peut-être semblable aux monstres marins véhiculés par les mythes des pays environnant Israël, alors la mer est synonyme de quelque chose d'inquiétant. Elle symbolise les forces du mal et de la mort. Et c'est alors que le récit que nous venons d'entendre s'ouvre plus largement à notre compréhension. Jésus ne marche plus seulement sur l'eau, mais il marche sur les forces du mal et sur les puissances de mort. Le récit devient tout autre. La mer n'est plus seulement la mer, mais elle devient une métaphore de tout ce qui, dans notre vie, peut être comparé à des puissances de mal ou de mort. Nos peurs, nos fragilités, mais aussi les épreuves, les inquiétudes et les angoisses. Et dans notre contexte actuel, dominé depuis plusieurs mois par cette pandémie, qui nous oblige à modifier nos façons de vivre et de travailler, et qui transforme nos rapports sociaux et familiaux, ce récit offre aux chercheurs de Dieu que nous sommes, ou aux croyants que nous sommes, une parole qui peut nous rejoindre là où nous en sommes, pour donner ou redonner du sens à notre vie. Au milieu de toutes ces interrogations que sont les nôtres par rapport à un avenir pour le moins incertain et fragile, voilà que nous entendons le récit d'un homme qui s'avance marchant sur toutes les peurs qui pourraient nous bouleverser. Et cet homme ne fait pas que marcher, il rassure aussi ceux qui paniquent en disant simplement ces mots « confiance ». C'est moi, n'ayez pas peur. Alors cet homme devient cette lumière qui rassure, qui oriente, qui calme, qui consolide même notre être intérieur. Il est cette voix qui nous dit quelque chose de la part de Dieu, cette chose que nous ne sommes plus seuls, que nous sommes simplement accompagnés si nous lui accordons un tant soit peu notre confiance. En tout cas, c'est l'expérience de celui qui écrit cet évangile après la résurrection. C'est alors que le personnage de Pierre entre en jeu dans ce récit invraisemblable. Pierre demande à vérifier les dires de Jésus. Il veut rejoindre Jésus. Il lui demande la possibilité de faire comme lui, si c'est bien toi, alors ordonne-moi de venir vers toi, sur l'eau. Et Pierre reçoit cet ordre désarmant de simplicité de la part de Jésus. Viens, rien de moins, rien de plus. Et Pierre s'avance à son tour, en tout cas il en prend le risque. Au fond, on ne sait pas combien de distance il a parcouru, mais par quoi est-il porté à ce moment-là pour oser s'aventurer à son tour sur quelque chose d'aussi instable et d'effrayant que ces puissances de mort? Il fait l'expérience d'une confiance absolue quelques instants. Et on peut imaginer qu'il a le regard fixé sur Jésus, qui s'avance aussi vers lui, les deux avancent l'un vers l'autre. Mais Pierre est envahi par la peur de son environnement menaçant. Il se met à douter et le voilà qui s'enfonce. Mais dans un ultime réflexe, il crie vers Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Pierre est aussi un symbole, le symbole du cheminement de foi de celui qui entre dans la lecture de ce récit. C'est le prototype du croyant avec ses élans et ses doutes. Pierre a risqué quelque chose d'invraisemblable et prenant conscience de l'énormité de ce qu'il était en train de faire, la peur l'a fait régresser en le faisant douter de lui-même. Mais au fond, de quoi Pierre a-t-il eu peur? Peut-être de ne pas être assez digne du Christ? Eh bien, cette peur le tenaillera jusqu'à la mort de Jésus. Pour le moment, il n'est pas encore prêt. Il n'est pas prêt à accueillir dans sa vie le Messie. Peut-être est-il déstabilisé par ce Dieu inattendu, inauguré par Jésus le Christ qui vient le rejoindre là où il en est, sans pour autant lui faire de reproches. Il a risqué déjà de rejoindre le Christ quelques instants. Mais maintenant, il sait où en sont ses propres forces, limitées. Mais c'est le Christ qui le rattrape et qui finalement ne le lâchera plus. Seigneur, sauve-moi. À cet instant, Pierre crie la vérité qui est en lui et Jésus l'entend. On peut imaginer qu'il le saisit par le poignet, qu'il le tient fermement pour qu'il ne se noie pas. Cette poignée de main inoubliable qui sauve de la mort, de toutes les morts, le tire vers le haut et vers la vie. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Jésus pose cette question à Pierre une fois qu'il l'a sauvé. Inconditionnellement. Pour ma part, je ne l'entends pas comme un reproche, mais plutôt comme une prise de conscience par rapport à la réalité à laquelle Pierre est confronté. C'est dur de suivre le Christ. Pierre ne sait pas encore qu'il sera capable de le suivre, ce Christ, sur un chemin insoupçonné, après avoir expérimenté toutes ses faiblesses, les unes après les autres. Après les avoir déposés au pied de la croix, avant de suivre le ressuscité. Alors, si Pierre nous parle de nous-mêmes, ce texte est peut-être là pour nous aider à repérer ici et maintenant les bonnes raisons que nous avons, nous aussi, de poser le pied sur la mer et de marcher sur ces puissances de mal et de mort. Je poserai la question autrement. Avec quelle confiance avançons-nous dans la vie ? Avec quelle conscience de nos forces et de nos enthousiasmes, comme de nos limites, de nos faiblesses, de nos impuissances ? Malgré notre bonne volonté, oui, comment avançons-nous ? Jusqu'où serons-nous obligés d'aller pour crier à Dieu la vérité de notre être ? Seigneur, sauve-moi ! Alors, mes amis, mes frères et sœurs, à chaque nouvelle tranche de vie que sont les nôtres, il faudra prendre le temps de repérer comment les textes de la Bible nous rejoignent, nous parlent, nous rencontrent. La palette d'interprétation des textes est infinie. Elle se conjugue avec l'expérience de nos existences. Alors voilà. Je ne sais pas du tout si Jésus a marché sur l'eau. Mais est-ce que c'est si grave ? Ce récit n'est pas là pour nous prouver quelque chose, mais pour ouvrir une recherche, celle de Dieu, et amener celui ou celle qui cherche à une rencontre. Nous cherchons Dieu, mais c'est lui qui nous trouve. Simplement parce que il fait l'autre moitié du chemin, même sur l'eau mouvante de notre pauvre humanité. En tout cas, c'est ainsi que le texte me parle aujourd'hui. Demain, il me parlera autrement. Et à vous aussi. Et l'aventure ainsi continuera. Tout en nous rencontrons, nous le rencontrons. Et de cette rencontre jaillira notre propre confession de foi. Amen. dans le recueil Louanges et prières. Nous prendrons maintenant le numéro 298. De ce cantique, nous chanterons les strophes 1, 2 et 5, et je vous invite à vous lever.
Bonjour à tous, merci d'être si nombreux en ce début de vacances scolaires. Donc Béatrice est déjà partie en vacances, Agnès part la semaine prochaine. Merci à toi Sarah pour la douceur de ton jeu. En ce jour un peu compliqué, je pense que vous avez tous été très émus par l'actualité. Avant d'y revenir, nous en avons beaucoup discuté en CP, en conseil presbytéral hier. Cette semaine, programme de vacances scolaires, vous avez vu les nouvelles annonces. Nous allons essayer à ce que tous nos événements qui sont d'habitude le soir vont être décalés plus tôt, vers 18h, 18h30. Nous reviendrons vers vous. Mais la semaine prochaine, nous n'avons, entre guillemets, que la pause spirituelle de jeudi midi et culte dimanche prochain avec Béatrice qui sera de retour de vacances. Et Agnès partira en vacances pour la semaine et reviendra pour le culte du 1er novembre. Également, le départ de Jean-Pierre Rive après les vacances, notre pasteur qui nous a beaucoup aidés à la retraite, qui va passer sa retraite en province. On va organiser pour ceux qui veulent faire un petit geste, une collecte au secrétariat. Donc n'hésitez pas à venir voir Isabelle, Apia ou Nicole Aymar, notre bénévole, si vous voulez qu'on fasse quelque chose en commun pour le départ de Jean-Pierre Rive. J'en profite pour saluer le retour de Gilles Castelnau parmi nous, qu'on n'a pas vu depuis longtemps et ça fait très plaisir. Également de Catherine Bretet, qui a été aussi très malade. Nous avons eu un CP hier, beaucoup de discussions sur ce qui se passe au nom de la religion. Jean-Luc Buisson a immédiatement posté sur notre site la phrase de Castelnau. Tuer un homme pour défendre une doctrine, c'est tuer un homme. Et Agnès nous rappelait tout à l'heure dans sa confession de foi du synode de 1934 que très souvent tout ça est indirect. Hier, c'était un Tchétchène de 18 ans qui égorge quelqu'un dans la rue. Et au temps de Castellion, c'était un secrétaire qui est indirectement calomnié. Et puis dans le synode de 1934, ça nous rappelle aussi la calomnie, la rumeur, l'humiliation, le jugement. Aujourd'hui, c'est dans les réseaux sociaux et quelqu'un se sent endoctriné par cette doctrine. Et la discussion en CP, c'est comment on fait pour ne pas se laisser endoctriner, équiper chacun d'entre nous pour qu'au nom de la religion, on ne tue personne. Voilà, j'en profite maintenant pour changer de sujet, mais un sujet aussi un peu douloureux. Vincent, si tu veux prendre la parole pour faire un appel.
Merci bien de me donner la parole ainsi. Donc, je suis Vincent Hubach et j'appartiens au collectif des morts de la rue. C'est une association qui a été créée il y a une petite vingtaine d'années pour prendre en charge les gens qui meurent dans la rue, en général les SDF bien sûr, et les gens qui meurent dans la plus grande solitude. Les gens qui meurent tout seuls chez eux, qu'on peut retrouver deux, trois mois après leur décès, comme ça, voilà. Alors, hier a eu lieu l'Assemblée générale de cette association et compte tenu des circonstances, il se trouve que, c'est-à-dire que la première génération des fondateurs prend de l'âge, évidemment, et part à la retraite, entre guillemets, si je puis dire. Le problème du Covid, évidemment, vient amplifier cette question, ce qui fait que les équipiers qui vont au cimetière accompagner les défunts, eh bien, sont de plus en plus rares en ce moment. Il y a un déficit important. Et en accord avec le collectif, on s'est mis d'accord les uns les autres pour dire, ben, chaque fois qu'on a l'occasion de faire un appel, il faut le faire. Et donc, je vous transmets cet appel. Si vous vous sentez appelé à aller de la morgue des hôpitaux ou de l'Institut médico-légal au cimetière de Thiers, une fois de temps en temps pour accompagner donc ces gens qui meurent tout seuls afin qu'ils puissent avoir un enterrement digne d'un être humain, eh bien venez me trouver à la sortie du culte là dans quelques minutes ou bien tapez sur internet collectif des morts de la rue, vous aurez évidemment tout un tas de renseignements à ce niveau-là. Voilà. Le slogan des morts de la rue, c'est tout homme est grand. Voilà. Donc, quel qu'il soit, que ce soit un SDF de nos rues, que ce soit un isolé ou n'importe qui, chaque personne mérite d'être traitée dignement. Je voudrais vous dire aussi ceci, c'est que, autant que je sache, pour les gens de la rue, une des angoisses, c'est de savoir comment ils vont être enterrés. Est-ce qu'ils vont être enterrés à la va-vite, n'importe comment, voilà, ou est-ce qu'ils auront un enterrement digne d'un véritable être humain ? C'est une question pour eux qui est assez importante, une question ontologique hein, finalement, et la manière dont on enterre les gens en dit long sur la manière dont on les traite dans leur vie. Voilà, donc je suis à votre disposition pour répondre éventuellement à vos questions tout à l'heure. Et sinon, je vous renvoie à Internet, notre ineffable Internet inévitable. Merci.
Merci à toi Vincent, et ton premier appel est en direct aujourd'hui puisque nous avons enfin le direct qui fonctionne. Donc la terre entière t'a entendu, j'espère. En tout cas les plus éloignés d'entre nous et les plus fragiles. Voilà, merci infiniment Agnès. Merci pour le message que tu nous as rappelé. La peur nous fait régresser, il ne faut pas avoir peur.
C'est maintenant le moment de l'offrande. L'offrande qui va être recueillie parmi vous est destinée à la vie courante de l'Église, de votre Église locale, que chacun donne avec joie, sans regret ni contrainte. Avant de nous unir les uns avec les autres dans la prière, j'aimerais simplement vous rappeler qu'à la fin du culte, il y a un dernier morceau qui est joué par notre organiste, qui fait partie intégrante du culte. Donc nous pouvons rester là pour l'écouter et ensuite partir. Néanmoins, chacun peut partir quand il le souhaite, mais en tout cas pour tout le monde, merci de laisser les cantiques à vos places. Merci. Prions. Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et notre geste d'offrande d'aujourd'hui en est un modeste témoignage. Inspire-nous d'autres gestes d'offrande qui ne soient pas que des gestes matériels, mais également des gestes d'amitié ou des marques de tendresse. Donne-nous la force d'être là, simplement par la prière, afin que personne ne soit oublié. Nous te remettons toutes les familles actuellement en deuil, autour de nous, dans nos familles, dans notre paroisse, dans notre monde. Nous te remettons en particulier la famille de ce professeur d'histoire-géographie assassiné vendredi. Donne-nous la force d'être là simplement par la prière afin que personne ne soit oublié, ni la victime, ni le tueur, ni les élèves, ni aucune personne touchée par ce drame de près ou de loin. Nous te remettons notre monde en souffrance à cause de l'épidémie qui continue de sévir et nous oblige à rester à distance les uns des autres. Nous te confions les personnes hospitalisées, quelle qu'en soit la raison, mais également toutes les équipes des soignants. Donne-nous la force d'être là simplement par la prière afin que personne ne soit oublié. Nous te remettons les personnes qui ont demandé le secours de notre prière et que nous te nommons dans le profond de nos cœurs. Nous te remettons également celles qui réclament notre présence, sollicitent notre aide, notre entraide, mais également notre patience et notre discernement. Donne-nous la force d'être là simplement par la prière, afin que personne ne soit oublié. Et ensemble, nous te disons la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et recevez maintenant, amis, frères et sœurs, la bénédiction de la part du Seigneur. Mon frère, ma sœur, mon ami, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel porte sur toi son regard et te donne la paix. Amen.